Klauda Skolovic. Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
Un gaz qui nous empoisonne dans Midi Libre ce matin.
Et c'est comme une menace fantôme, un gaz radioactif, incolore, inodore et qui monte du sol pour s'infiltrer dans nos maisons. C'est ce que nous dit le journal du Grand Sud. Ce gaz s'appelle le radon. Il est la deuxième cause du cancer du poumon en France, de la mortalité du cancer du poumon en France. On le trouve dans des sols notamment granitiques. Il se diffuse et stagne dans des habitations qui ne sont pas étanches ou bien mal ventilées. Et là, attention. Et Midi Libre alerte, 800 000 personnes sont potentiellement en danger en Occitanie. Le radon sommeille sous l'Aveyron, sous la Lozère, sous les Pyrénées orientales. Et nul en Occitanie ne pourra encore être insouciant, et pas seulement dans cette région, puisque le radon est devenu un enjeu pour les autorités sanitaires. On en a parlé en janvier dans Ouest France, dans La Nouvelle République, dans Presse Océan. On trouve plusieurs pages sur le radon sur le site de l'Institut de Recherche et de Sécurité Nucléaire. Et oui, c'est un gaz radioactif, on mesure son danger en becquerel. Mais Midi Libre est le premier grand journal à faire un dossier complet qui veut aussi nous rassurer. On peut s'acheter des dosimètres de détection pour savoir si on est infecté. Ça coûte 30 euros. On va aussi distribuer des tests dans la région. On nous raconte aussi qu'on peut se débarrasser simplement du radon. Ainsi à Balsièges, en Lozère, où on a percé des trous dans les murs d'une école qui était contaminée. Simplement cela, des trous. Étrange sentiment, nous sommes accablés de dangers inédits. Et en même temps, l'homme est d'une invention incroyable pour s'en prémunir. Tiens, tandis qu'en Lozère, on perce des trous contre le cancer, l'Alsace raconte que dans le Haut-Rhin, un homme s'est enfermé dans sa cave pour échapper aux ondes électromagnétiques. Il s'appelle François, il a 47 ans. Il est atteint d'une intolérance aux champs électromagnétiques, c'est-à-dire que les ondes du téléphone mobile ou de la Wi-Fi lui provoquent mal de dos, un mal de tête insoutenable, des vertiges, des sensations de brûlure sur le corps, l'impression qu'on lui enfonce un couteau sous la peau. Eh bien, il s'est retiré, comme un paria, dans une cave qui l'a rendu inviolable aux ondes. Il dit aussi, François, qu'une crise sanitaire va arriver, tant les médecins ne sont pas formés à ce mal du siècle dont les victimes ressemblent à des fous qui seuls ressentent ce qui nous traverse.
Le Figaro parle, lui, du danger djihadiste, Claude, et donne la parole à un journaliste.
Et voilà donc une peur connue, mais elle prend une autre dimension avec ce document important, la très longue interview d'un journaliste, donc David Thompson, sans doute celui qui en France est allé le plus loin dans l'exploration du djihad et de ses adeptes. Il a renoncé, David Thompson, il vit aux États-Unis, il était menacé de mort en France et puis aussi épuisé. On ne peut pas, dit-il, passer sa vie à sonder le pire de l'âme humaine. Et pourtant, il revient ce matin, Thompson, réanimé par le Figaro, dans le débat sur le sort qu'il faudrait réserver aux Français de Daesh vaincus. Et Thompson avertit, non, les déçus de Daesh n'ont pas changé, ils restent fidèles pour la plupart au courant djihadiste. Il est impossible, dit-il, de s'assurer de la sincérité de leur repentir. Thompson nous dit que dans son travail, il a rencontré des djihadistes chauffeurs de taxi, agents de sécurité et même auxiliaires de police au guichet d'un commissariat. Il avertit aussi que plus de la moitié des détenus terroristes sortiront de prison d'ici à 2020 et seront peut-être un nouvel escadron de la mort. Daesh, dit-il, a inséré le logiciel terroriste dans le cerveau d'un nombre inédit de jeunes Français. On lit donc le Figaro et on avance dans la peur et on en vit, Nicolas, ce matin, la résilience du journal La Croix, qui nous appelle à un nouvel humanisme face aux crises écologiques, migratoires, face au néolibéralisme, aux nouvelles technologies. Et La Croix nous invite aussi à la paix. Comment se désarmer intérieurement? Comment vivre en confiance? Je cite, « L'être humain naît dans la relation, est blessé dans la relation et guéri dans la relation ». On en vit, Nicolas, les croyants.
Et puis on parle aussi de Nutella dans les journaux.
Le Nutella, une addiction sucrée qui rend fou, et c'est au diapason de cette journée, la journée des peurs et des addictions. Quand Le Monde raconte rationnellement l'économie du cannabis, 200 000 personnes en vivent en France, dans une économie hiérarchisée et brutale, l'économie donc. Le Parisien, lui, monte à sa une et ravage de la cocaïne et essaye de sourire avec ce dessin d'Olivier Ranson. On voit un monsieur qui dit à des zombies « Il semblerait que la coke soit plus dangereuse que le Nutella » et les zombies répondent « Il y a des promos sur la coke ? Où ça ? Où ça ?» Mais sourit-on vraiment ? pourtant ce qui est arrivé autour de la promotion du Nutella dans les Intermarchés inquiète nos journaux qui chacun raconte à sa manière une part des émeutes et qui s'interroge. Je lis dans les Échos que Ferrero, le fabricant de pâtes à tartiner, n'est pas d'accord avec l'inconséquente promotion d'hier. Mais à la sidération s'ajoute aujourd'hui une forme de honte collective tant la pauvreté se cachait derrière la frénésie. Il y a sur Mediapart le blog d'un internaute qui s'appelle Lionel Jeanjot qui exprime le mieux ce malaise face aux événements et aux commentaires qu'ils ont provoqués. Dans les pots de Nutella, nous le savons désormais, on trouve du sucre, de l'huile, mais aussi de l'humiliation, du cynisme et une bonne dose de mépris de classe. Et le blogueur dénonce les commentaires méprisants qui ont fleuri sur la toile et rappelle « Ceux qui se sont battus pour du Nutella sont ce que nous avons été pour beaucoup d'entre nous ou ce qu'ont été nos parents, nos grands-parents, nos amis d'enfance. » On conserve, Nicolas, cette ode à nos vieux goûters en lisant, et on termine ici, dans M, le magazine du Monde, sur Internet ce matin, dans les kiosques cet après-midi, un article sur ces commerces de proximité qui disparaissent, ces épiceries ouvertes si tard qu'on appelait l'arabe du coin. Eh bien, ils ferment l'arabe du coin, assiégés par les supérettes des grandes enseignes. Ils revendent ces commerçants venus du Maghreb qui pensaient qu'ils ne mourraient jamais de faim s'ils vivaient au-dessus d'un tas de nourriture, et ils comptent leur vie flouée. Si c'était à refaire, je prendrais un travail de bureau, je sortirais le dimanche avec mon épouse au bras et je verrais mes enfants grandir. L'article s'appelle joliment « L'arabe du passé ». Il nous parle des lois de l'économie et de ce que nous fûmes, c'est presque une consolation.
Claude Askolovitch, merci pour cette revue de presse.